1, 2, 3, 4. Crazy Afrobeat.
Radio Django, le grand direct, 18-19h.
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour votre heure de vie lausannoise, c'est le grand direct de Radio Django. Je suis très heureux de vous retrouver ce mardi 19 juin pour parler d'expo, de musique, de fêtes de quartier, de vacances et de musique de nouveau, puisqu'on va commencer avec le vernissage d'une exposition ce soir. L'exposition se tient cette semaine et c'est un projet de la mesure Impulsion de la fondation Le Relais. On en parle avec l'un de ses animateurs, Gilles Noble, que l'on reçoit dans quelques instants sur Radio Django. Tout à l'heure à 18h10, nous parlerons de la fête de quartier de Bosson. Daniel, bonsoir.
Oui, bonsoir Fabien.
Tu es allé sur place, c'était ce week-end.
Alors oui, un moment très festif, amusant, que j'ai pu découvrir sous la loupe des enfants qui ont interviewé Monsieur Payot, des habitants et d'autres enfants.
Voilà, on découvre tout ça dans quelques instants au menu de Vivre à Lausanne. Tout à l'heure à 18h30, ce sera la Rose des Vents avec toi Anouche, bonsoir.
Bonsoir Fabien.
Ce soir, le dernier sujet de la Rose de Voix d'Exil pardon, avant la pause estivale, tu nous parles de vacances, c'est d'actualité, mais de vacances pour les requérants d'asile.
Effectivement Fabien, ce soir je vais vous présenter des difficultés de la vie des requérants d'asile, comment est-ce qu'ils affrontent et comment leur famille passe leurs vacances d'été pendant les prochains mois.
Un sujet d'actualité et peut-être passablement sensible, on en parle dans quelques instants avec toi Anouche. Et puis pour finir cette émission à 7h15, ce sera Cultiver Lausanne, nous allons recevoir David Agoch, l'un des membres des organisateurs de la fête de la musique pour ce qui est de la partie musique du monde. On découvre cette programmation ensemble en fin d'émission. Empreinte, l'expo photo Portrait d'Impulsion, la fête de quartier de Bosson, les vacances pour les requérants d'asile et la fête de la musique édition 2018 à Lausanne. C'est le programme de ce 151e grand direct de Radio Django à écouter sur Radio Django et Radio La Fabrique. Et puis, juste après votre grand direct, rendez-vous avec À Propos, rendez-vous d'une petite demi-heure avec des billets de la rédaction sur certains mouvements naissants à Lausanne. Ce sera tout à l'heure à partir de 19h, mais pour l'instant, partons direction Lausanne pour ce grand direct. Je suis Fabien, je vous accompagne jusqu'à 19h. Bienvenue à vous.
Radio Django, vivre à Lausanne.
Et on débute cette émission avec une exposition qui va se tenir ce soir même, dans une petite demi-heure. Il s'agit d'un projet mené par Impulsion, l'une des mesures de la fondation Le Relais. Une exposition de photos accompagnée d'un entretien écrit réalisé par les participants, artistes, à un atelier. Cette exposition s'appelle Empreinte au pluriel. Et pour en parler ce soir, nous recevons l'un des animateurs de ce projet et responsable de la structure Impulsion. Bonsoir Gilles Noble.
Bonsoir Fabien.
Bienvenue sur Radio Django. Merci. Alors cette exposition, un projet d'exposition, photo plus entretien, expliquez-nous.
Alors en fait à Impulsion, chaque année on monte une exposition annuelle au moment de l'approche de l'été. Principalement une exposition photographique. Et puis là, la particularité cette année, c'est d'avoir mêlé en fait différentes modalités créatives. Donc on a effectivement de la photographie, on a passé par l'interview, on a aussi de la photolinogravure, on a aussi des frises, on a aussi du dessin et différents types d'illustrations.
Mmh. On le disait, le nom de cette exposition s'appelle Empreinte au pluriel. Expliquez-nous l'origine de ce nom, de ce titre.
Alors c'est vrai que chaque année, mes collègues et moi, on prend un moment pour réfléchir au thème qu'on va imposer en fait à la vingtaine de participants qui vont devoir travailler là-dessus après. Et puis cette année, le thème de l'empreinte est venu, en fait, on discutait autour de la trace qu'on laisse. On était autour de la trace écologique, on était autour de la trace qu'on pouvait laisser au travers de l'éducation ou au travers du travail social. Et puis petit à petit, on a réfléchi aussi à la trace que pouvaient laisser les hommes au temps préhistorique. Ils prenaient de l'ocre avec de l'eau dans la bouche et puis ils la crachaient sur leurs mains dans les cavernes. Et on se disait, mais en fait, de tout temps, l'être humain a eu à cœur de laisser une trace de son passage, peut-être. Ou en tout cas, avait besoin de marquer de manière artistique certaines choses. Et là, nous, on est parti après avec le thème de l'empreinte en se disant, ben, les traces qu'on laisse, au fond, on en a reçu nous aussi. Et on est imprégné par certaines choses, et puis par la suite, on va en imprégner d'autres. Et on est arrivé au concept un peu d'interdépendance, si vous voulez. C'est-à-dire que voilà, je vous imprègne en racontant ce que je raconte aujourd'hui, et vous m'imprégnez en me posant des questions, et en fait, c'est infini. Il n'y a pas de début, il n'y aura sûrement pas de fin. Et on trouvait le thème intéressant par rapport à l'aspect graphique qu'il pouvait proposer.
Alors, sans nous dévoiler l'intégralité de cette exposition, faites-nous un petit peu rêver, imaginer au travers de votre exposition, qu'est-ce qu'on va y voir concrètement, quel type d'empreinte ?
Alors, pour l'empreinte au niveau photographique, l'enjeu, c'était que chaque groupe, il y en a quatre, devait choisir un modèle, un ou une modèle, pour lequel il allait du coup proposer des questions autour de l'empreinte que cette personne allait laisser et puis autour de l'empreinte que cette personne avait reçue. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est que dans les groupes, on a eu quatre personnalités très différentes. Donc, on a une vétérinaire qui a été interviewée et photographiée. On a eu un tatoueur. On a eu une femme d'origine brésilienne qui habite maintenant à Genève. Et puis une dernière personne qui est artiste et thérapeute. Donc vraiment des parcours très différents. Et au travers de ces personnalités-là, on voit que ben, y a certaines similitudes, beaucoup de différences qui viennent de leur parcours. Et on fait le lien avec le fait que ben, voilà, chacun, chacune a été imprégné de manière différente. Et du coup, on retransmet les choses de manière très différente aussi.
Et alors dans cette exposition, concrètement, on a une photo, une représentation artistique de l'empreinte et un texte.
Voilà, donc, c'est-à-dire qu'on a un portrait de chaque personne et puis quatre photos, on va dire, photo-reportage de l'ambiance dans laquelle ces personnes-là évoluent. Et ensuite, on a une interview avec quelques questions qui sont similaires pour chaque personne.
Mmh. Si on revient un petit peu sur le projet, comment est-ce qu'il s'est déroulé durant tous ces mois de préparation pour ces 20 participants ?
Alors justement, ça se passe une matinée par semaine. Et puis nous, on arrive un matin avec notre thème, très fiers de nos réflexions et très, très motivés à l'idée que ça va donner un truc super. Et après, ben, eux, ils reçoivent cette contrainte-là. Ils reçoivent aussi la contrainte du fait qu'il va falloir faire un portrait, qu'il va falloir aller rencontrer des gens, qu'il va falloir les interviewer. Et donc, face à ces contraintes-là, ben, du coup, le groupe se met un peu en branle. Il y a ben, un brainstorming, il y a des argumentations, des contre-argumentations, il y a certaines fâcheries. Il y a aussi beaucoup de cordialité pour arriver au final à un moment donné où ils se mettent d'accord sur un concept photographique. Ce qui n'est pas évident quand vous êtes cinq avec des parcours différents, des visions différentes. Il n'y a pas un professionnel dans l'équipe. Voilà. Comment est-ce qu'on organise tout ça ? Comment est-ce qu'on se débrouille pour qu'au final, il y ait quelque chose qui fonctionne ? Mmh. Et je pense vraiment que tout un chacun, on a l'habitude de peut-être fonctionner dans des professions où les rôles sont bien établis. Là, du coup, il n'y a aucun rôle qui est préétabli. Du coup, c'est d'une rare complexité de savoir comment est-ce qu'on va travailler pour arriver devant une personne. Il va y avoir un photographe, un preneur de son, quelqu'un qui pose les questions, quelqu'un qui va retoucher les images, comment on fait la sélection. Et on se met d'accord comment pour choisir quatre images au final, parce qu'on en a 350. Voilà, tout un enjeu assez compliqué. Et puis, une matinée par semaine, du coup, depuis le mois de février, ces 20 participants travaillent là-dessus, avec encore une ultime contrainte que ben, y a des gens qui arrivent dans le groupe, des gens qui quittent le groupe. Donc non, vraiment, si c'était simple, ça se saurait.
Ça se saurait, oui, effectivement. Les participants, comment est-ce qu'ils ont réagi à ce souhait, à cette proposition de thématique, l'empreinte ?
Alors, de nouveau, de manière très contrastée, certains... La première réaction, c'était « mais on n'est ni journaliste ni photographe et vous nous demandez de faire les deux, ça va être compliqué ». D'autres « mais c'est génial, c'est exactement le thème que j'ai en tête depuis 2 ans que je ne sais pas comment réaliser, du coup on va enfin pouvoir le faire ». Et puis d'autres « bof ».
On fait, parce qu'il faut le faire.
Parce qu'il faut le faire, exactement.
Pour ce qui est du casting des personnes qui ont été rencontrées, c'est vous qui les avez imposées, c'est eux qui ont souhaité les rencontrer, qui les ont recherchées, qui ont donné
leurs écoutes. Alors c'était leur propre démarche, effectivement. Certains ont choisi des personnes connues dans leur cercle de proches, qui facilitaient du coup certaines démarches aussi. Et puis d'autres, ça a été vraiment du démarchage qui a pris pas mal de temps pour trouver quelqu'un qui était d'accord. De participer à ce projet. D'ailleurs, c'est une des questions de l'interview. Pourquoi est-ce que vous avez été d'accord de participer à ce projet ? Parce qu'au fond, c'est un peu... voilà, ça peut être particulier. On vous demande de venir poser, de nous raconter ce que vous faites. On n'est pas professionnel, les photos ne seront pas vendues, il n'y a pas de postérité à l'issue de cette exposition. Il y a juste le fait de participer à un projet et puis ces gens-là ont accepté.
Bon, bah, grande satisfaction à vous entendre pour ce projet édition 2018.
Oui, ouais, complètement. Et puis, c'est un grand plaisir de pouvoir revenir à la Galerie des Mares. Ça fait 6 ans maintenant qu'on expose là-bas chaque année. Et puis, ben, chaque année, on est un petit peu sur le qui-vive de savoir où on en est au niveau du tribunal fédéral, si ça va être rasé ou pas. Et chaque année, on voit qu'on peut revenir, donc on est très content et le lieu se prête vraiment bien à nos activités.
Vous dites que ça va être rasé puisque ça se trouve dans la zone du périmètre qui va être modifié pour l'arrivée du tram.
Oui, et c'est la maison du livre et la rampe qui va être faite par-dessus.
Dans le quartier du Flon à Lausanne. Le vernissage, c'est ce soir, c'est tout à l'heure, dans une vingtaine de minutes, à ce lieu, à la rue des Côtes de Montbenon 17 à Lausanne, chez Desmar. Le vernissage ce soir, à quoi s'attendre ?
Alors, on a axé le vernissage sur tout un groupe qui a travaillé sur la mise en scène. C'est-à-dire que c'était aussi une manière d'accueillir les gens quand ils arrivent en cours de route. Un mois avant l'exposition, on ne peut pas leur donner un modèle à aller photographier, ni commencer à faire un interview. Du coup, les personnes qui arrivaient dans un deuxième temps, on les mettait dans un groupe qui était le groupe de mise en scène. Et là, cette année, ils ont vraiment travaillé sur tout un concept d'imprégner les gens de ce thème-là, au travers de réflexions, mais au travers d'activités, et de vraiment amener les gens à repartir de là en ayant réfléchi à quelle empreinte ils laissent et quelle empreinte ils ont reçue pour arriver là aujourd'hui.
Les empreintes, c'est le thème de votre exposition. Dans le vernissage, c'est ce soir à 18h30 à Desmar, rue des Côtes de Montbenon 17 à Lausanne. Et puis l'exposition, c'est cette semaine. Ça commence officiellement demain.
Alors, on va dire officiellement ce soir, et puis oui, parce que c'est là où il y aura le plus de monde, j'imagine. Et puis pour le reste de la semaine, donc mercredi, jeudi et vendredi. Chaque après-midi, si je ne dis pas de bêtises, le mercredi.
14-18h, si je me réfère à votre flyer. 16-19 jeudi et 14-17 vendredi.
Super, voilà, exactement. Voilà,
j'ai bien fait de prendre le flyer avec moi.
Merci.
on vous souhaite plein succès. Merci beaucoup, Gilles Noble, de nous avoir accordé ces quelques instants pour nous parler de cette exposition qui débute ce soir. On vous laisse filer au vernissage puisque le temps passe.
Exactement, merci beaucoup.
Une toute bonne soirée, à bientôt, merci. Gilles Noble. Merci beaucoup. Un sujet à retrouver sur notre site www.django.fm et bien sûr, allez visiter sur place cette semaine. Jusqu'à vendredi soir à Desmar, à la rue des Côtes de Montbenon 17 à Lausanne. C'est à deux pas de Pôle Sud. Bien sûr, on vous invite à vous y rendre dans les meilleurs délais et ne pas louper. On passe à la suite. On continue d'en vivre à Lausanne juste après ceci. On continue dans cette rubrique Vivre à Lausanne avec un focus sur le nord lausannois en pleine effervescence. Lausanne a un nouveau parc, le parc du Loup, inauguré ce vendredi le 15 juin. Inauguration qui a donné lieu à une grande fête des quartiers. Le nouveau parc se situe au cœur des quartiers des Bossons, de Bois-Gentil, de Bois-Mermet, de la Blécherette, l'ancien stand et du futur éco-quartier des Plaines du Loup. On vous en a déjà parlé lors de la démarche participative. C'était il y a quelques années déjà sur Radio Django. Que oui, le temps passe vite. Daniel, l'aménagement de ce parc s'inscrit dans le cadre du projet de développement de Lausanne Métamorphose, hein, si j'ai bien compris.
Absolument, Fabien. Métamorphose est un projet phare du développement de Lausanne. Ce projet entend doter la ville de nouveaux équipements sportifs, de transports publics adéquats et de deux quartiers écologiques. Et la réalisation du parc du Loup marque symboliquement le début des travaux et qui normalement devrait s'éteindre fin 2020. C'est un projet porté par la ville de Lausanne, le collectif des Plaines du Loup, les associations de quartier et le centre de quartier des Bossons. La fête d'inauguration du parc du Loup et la fête de quartier de ce week-end ont permis de marquer la première étape de ce grand projet de parc multi-urbain, multi-usage, prévu pour 2022. Une fête mémorable.
Et Daniel, vous y êtes allé pour nous avec le micro de Radio Django ?
Absolument, notre radio a été sollicitée pour couvrir cet événement, oui, en faisant participer les enfants du quartier, entre autres, sur la base du programme des festivités organisées ce samedi 16 juin. Ces derniers ont choisi d'aller tendre leur micro à des acteurs de cette fête, organisée par l'association de quartier de la Blécherette et le centre de quartier des Bossons Plaines du Loup. Les enfants et leurs invités nous parleront de cirque, de goûter et de photos. Quant à moi, j'ai tendu mon micro à Hélène, animatrice au centre de quartier des Bossons Plaines du Loup et membre de la commission d'organisation de cette manifestation. Différentes voix nous donneront un aperçu de cette fête portée par la population, pour la population. Écoutons Hélène sur les objectifs de cet événement.
Alors il y en a plusieurs. Déjà, c'est d'offrir un moment convivial dans le quartier, de fêter le quartier avec les habitants. mais c'est aussi d'offrir aussi un moment pour tous les gens qui ont participé au chantier, de les valoriser par leur travail, valoriser les acteurs du quartier. Et puis, ben, c'est de faire la fête ensemble, de partager, et puis de vivre un moment de convivialité.
Hier soir, le 16 juin, le 15 juin, vous avez pu inaugurer le parc du Loup. Et dans quelle mesure est-ce que l'aménagement de ce parc s'inscrivait dans une démarche participative ?
En fait, le parc n'est pas fini. Il sera fini dans 3 ans. Donc on a débarré cette année la démarche participative par des ateliers autour d'une table cet hiver. Il y a plusieurs idées qui ont été mises et posées sur le papier. Puis après, il y a une équipe de paysagistes avec l'équipe de la ville et les architectes qui ont conçu ce parc par rapport à ces idées. Et au mois d'avril, pendant les 2 semaines des vacances, on a pu faire avec les gens, concrètement, on a fait ensemble, on a construit une partie du parc. Et puis pendant 3 ans, il va évoluer selon les envies. Et puis dans 3 ans, on aura seulement le parc définitif.
Cette fête est également l'occasion donc de fêter ce nouveau parc du Loup. Aujourd'hui, samedi 16 juin, c'est la fête. Le programme est chargé et dense. Quelle est l'activité incontournable ?
Alors, c'est difficile de choisir une activité parmi tout le programme, mais moi, je vais dire plutôt ce soir, autour de la cuisine, on va faire la cuisine tous ensemble, avec de la disco, avec des chants portugais, le folklore portugais qui illustre bien notre quartier. Mais c'est vraiment de faire ensemble et de manger ensemble et de vivre des moments agréables et simples avec les gens, pour être avec eux aussi.
Que symbolise la cuisine qui reste toujours un pilier dans les fêtes ?
Ah, il y a plein de choses dans la cuisine. Il y a la culture, l'interculturalité, on partage des recettes. Il y a aussi le faire ensemble. C'est aussi une belle opportunité pour pouvoir discuter avec les gens parce que c'est là où les gens ils se livrent beaucoup. Voilà, et puis on échange aussi des recettes, c'est l'occasion. Et puis on rigole beaucoup. La cuisine pour nous au centre de quartier, c'est vraiment le point assez culminant. C'est le point de rencontre en fait. C'est un prétexte à la rencontre et au partage.
Bonjour, monsieur Payot. Qu'est-ce que vous allez préparer pour le goûter ?
Alors, c'est une surprise. Ce qu'on sait, c'est en tout cas qu'on va le faire avec les habitants du quartier, des Plaines du Loup et des Bossons.
Quel est votre goûter préféré ?
Honnêtement, ça fait longtemps que je n'ai plus pris de goûter. J'ai toujours trop de choses à faire à ce moment-là. Du coup, ça peut être sympa de le faire plutôt les week-ends à ce moment-là. C'est le moment où on prend le temps, où on se retrouve. Avec du pain, du fromage, de la confiture, un peu de sucré, un peu de salé.
Qu'est-ce qui fait de manger d'un goûter ?
La magie d'un goûter, en tout cas pour cet après-midi, je pense que c'est d'être dans un nouveau parc, dans un lieu que tout le monde découvre, et puis d'avoir l'occasion aussi de rencontrer les habitants, avec vraiment cette idée d'un parc qui est entre les Bossons, entre les Plaines du Loup, des gens qui ne se croisent pas forcément et puis qui ont l'occasion d'échanger, de discuter. Et puis moi qui suis municipal aussi. Bien sûr, le goûter, c'est aussi une manière de partager, une manière de faire ensemble, d'apprécier ensemble, d'avoir un moment de plaisir et donc de partager.
Merci, monsieur Payot.
Le programme de la fête propose également des activités qui permettent de s'initier, de s'essayer, comme le cirque. Est-ce qu'il est aussi facile de co-construire un quartier que de faire du cirque ?
Ouais, je pense, parce que pour être un bon jongleur ou un bon acrobate, il faut de la patience, il faut du temps, il faut s'entraîner. Et co-construire, c'est ça aussi. C'est pouvoir aussi défaire pour refaire, réessayer, s'adapter, être modulable. Et je pense que ça va bien avec le cirque.
Bonjour.
Bonjour.
Pourquoi vous aimez le cirque ?
Alors, j'aime bien le cirque pour différentes raisons, parce que j'aime bien le groupe dans lequel je vais. Il y a plein de disciplines différentes, ça nous permet de faire du sport et puis de s'amuser en même temps. Et puis, il y a un côté aussi artistique que j'aime bien.
Quelle est votre discipline préférée au cirque ?
Alors, au cirque, je fais surtout 3 choses différentes. Je fais des acrobaties, des équilibres sur les mains et du trampoline. Alors, au cirque, en général, on commence, on fait un échauffement tous ensemble. On fait à peu près 30 minutes où on s'échauffe, on essaie des choses ensemble. Et puis après, chacun peut s'exercer un peu à sa discipline qu'il préfère. Et puis il peut s'entraîner, puis il y a le coach qui passe à côté pour nous donner des conseils et puis nous aider pour nous améliorer.
Est-ce que vous aimez le cirque Ni ?
Oui, j'aime bien le cirque Ni aussi, ouais. Ça me plaît bien. Après, je préfère les cirques où il n'y a pas les animaux, comme ça plutôt contemporains.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Et dans quelle mesure est-ce que les habitants de ce quartier sont partie prenante? Est-ce qu'ils ont envie de s'impliquer réellement ou vous devez les prendre par la manche?
À l'ère un peu actuelle où le bénévolat est où on trouve de moins en moins de bénévoles aussi, puis on est plutôt renfermé sur soi-même dans ses appartements, on est obligé d'aller chercher les gens. Les gens qui se sont beaucoup impliqués là dans la démarche, des gens qu'on connaît beaucoup, qui viennent au centre, c'est du travail quotidien en fait, d'aller à la rencontre, de créer le lien. Parce que s'il n'y a pas le lien entre nous et les habitants ils ne se sentent pas concernés non plus. Il faut aussi les informer. Une fois qu'ils sont informés sur les démarches, sur l'évolution du quartier, qu'ils arrivent à comprendre aussi et avoir peut-être un regard critique, où nous on aide aussi à avoir ce regard, et bien là ils s'impliquent parce qu'ils se sentent concernés.
Quel est le rôle des enfants dans le vivre ensemble?
Leur rôle, je pense que c'est vraiment la bonne humeur et la joie. Et puis eux, ils ont toujours envie de s'impliquer. C'est facile, les enfants, de les impliquer dans quelque chose. Après, le challenge, c'est que ça soit un peu réfléchi et que aussi on accorde une parole, qu'on accorde de l'importance à leur parole et que c'est pas juste on fait faire les enfants et puis c'est bon, les enfants ont participé ou les ados ont participé. Mais c'est qu'ils arrivent aussi à avoir leur regard et qu'on les écoute et qu'on arrive à faire ensemble. Ce qui est important, c'est aussi de respecter le temps, parce que parfois, on veut faire vite les choses et puis ce n'est pas de la participation. La participation, elle se fait sur le long terme parce que ça se tisse. C'est comme un tricot qu'on fait petit à petit. Et c'est pareil, bon, c'est pareil aussi avec les adultes, mais avec les enfants, ça met du temps. Et puis, il faut respecter le temps, le processus, parce que c'est le processus qui est important.
Et puis, Daniel, alors ce projet Métamorphose, c'est un projet plutôt tourné vers le futur, hein?
Absolument, mais il faut quand même rappeler la mémoire des lieux, tout en gardant un regard sur demain. Deux expositions ont été présentées dans le cadre de cette fête. La première montrait des photos en fait, du Nord lausannois les 10 dernières décennies. Mmh. Et la deuxième expo informée sur le projet du futur écoquartier. Écoutons Manard et Raroula qui ont été interviewés, des personnes visitant cette exposition de photos.
Bonjour.
Avez-vous vécu ici?
Alors, j'ai vécu ici dans le quartier entre 1987 et 2009.
Vous vous rappelez ces vieilles photos?
Bon, ça, c'est difficile à dire. Quand je suis arrivé dans le quartier, moi, j'étais le pasteur du quartier entre 1987 et 2000. Puis après, j'ai été l'aumônier de l'EMS du Bois-Gentil. C'est aussi dans le quartier. Jusqu'au 19e siècle, la ville s'arrêtait au carrefour qui est devant le bâtiment administratif de la Pontaise. Tout ce qui est plus bas, c'était la ville. Et puis tout ce qui est plus haut, c'était la campagne. Alors, en 1900, on a construit la prison. En 1910, on a construit, si ma mémoire est bonne, l'aérodrome et la petite école qui existe toujours. C'est une petite maison qui est juste à côté de l'aérodrome. Autrement, c'était des champs, des paysans et quelques artisans qui fabriquaient des tuiles. C'est pour ça qu'on parle de la tuilière. Voilà. Puis autrement, ce que j'ai trouvé intéressant dans la période où j'ai vécu ici, c'est que les terrains de sport étaient vraiment une... D'abord, c'est une chance pour toute la ville, mais ils constituaient une espèce de séparation. Mais les gens des Bossons n'allaient presque jamais au Bois-Gentil, où il y avait aussi des fêtes. Et puis les gens du Bois-Gentil venaient pas volontiers ici. C'est un peu comme s'il y avait une séparation entre deux, représentée par ces terrains de sport. Alors aujourd'hui, avec le nouveau projet de l'éco-quartier, mon espoir, c'est plus qu'un espoir, je suis presque sûr que ça va se passer, c'est que le nouveau quartier, il va fonctionner comme un trait d'union entre ces deux quartiers qui s'ignoraient un petit peu auparavant.
Depuis combien de temps vivez-vous dans ce quartier?
Ça fait 19 ans.
Je vous rappelle ces vieilles photos du quartier?
J'ai vu l'exposition, j'ai vu les photos. Ça me fait un peu de nostalgie parce que le quartier il a beaucoup changé. Et j'aimerais quand même revivre des moments comme avant. Parce que je pense que le quartier il était plus vivant.
Et qu'est-ce qui a changé dans ce quartier?
Autre chose, plus de bâtiments, plus de monde. Et c'est vrai qu'il est en pleine transformation. Ça veut dire que les gens... Et ils se mélangent moins.
Quel regard portez-vous sur les transformations de ce quartier comme le nouveau parc?
D'un côté, c'est bien parce qu'on va avoir plein de nouvelles choses, mais d'un côté, c'est pas bien parce que tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est en train de disparaître un peu avec tous ces travaux.
Et que pensez-vous de tous ces arbres battus?
Ça ne passe pas. Je ne comprends pas comme des architectes, comme des paysagistes, ils ont abattu autant d'arbres. Ils n'ont pas pu préserver les arbres. On doit faire un deuil. On doit faire un deuil parce que c'est très dur de voir les quartiers changer.
À votre avis, est-ce qu'il faut détruire pour changer le lieu?
Je sais qu'il faut détruire pour construire du nouveau, mais c'est comme le quartier, c'est une partie de nous qui est partie. Et chaque fois qu'on se promène, on a tellement de la peine parce qu'on voit le quartier se transformer. Peut-être que ça va être très joli, mais il nous faudra beaucoup de temps pour oublier l'ancien quartier.
Bonjour.
Bonjour.
Comment tu t'appelles ?
Sarah.
Depuis combien de temps tu vis ici ?
T'as
quel âge ?
3 ans et demi.
Là, on vient de voir des photos d'il y a longtemps. Laquelle tu préfères ?
Là.
Pourquoi ?
Parce que c'est grand.
Qu'est-ce qui est grand ?
Ça.
T'aimes une autre photo ? Laquelle ?
L'avion.
T'aimes bien les avions ? Tu vas jouer où ?
Dans notre parc.
Quel parc ?
Celui-là. Là.
Il est grand ?
Il est grand.
Tu préfères quoi ?
Le toboggan.
Et tu penses que tu vas aller dans le nouveau parc ?
Oui.
Tu vas aller tout le temps ?
Oui.
Toute seule ?
Oui. Non. Avec mes copines.
Au revoir.
Eh ben, il n'est pas vieux, hein, celui-là, Daniel.
3 ans et demi.
3 ans et demi,
beaucoup
voilà.
De femmes.
Comme quoi, on a des spécimens de radio, même déjà à 3 ans et demi. On remercie Hélène, que tu as rencontré également, Sabrine et Sagdia. Et puis, on rappellera que l'inauguration du Parc du Loup a ouvert le bal ce week-end à la Blècherette en beauté, puisqu'il faisait beau en plus.
Absolument. Non seulement le cœur était à la fête, mais les activités proposées permettaient de découvrir un quartier riche de ces gens. Soulignons que tout a été savamment orchestré par des habitants du lieu, avec créativité et générosité. Si la chronique ne nous a permis de découvrir qu'un aperçu de cette manifestation, les balades découvertes du quartier, comme les affiches acteurs du quartier, méritaient un détour. L'organisation de cette fête reste un bel exemple de démarche participative, comme la réalisation du Parc du Loup.
Effectivement, d'ailleurs, c'est un sujet qu'on avait traité sur Radio Django il y a à peu près 1 an et demi. On vous encourage donc à aller le retrouver sur notre site avec une petite recherche métamorphose ou Plaine du Loup. On retrouve tout ça sur notre site django.fm. Un projet, rappelons-le, qui s'inscrit dans la droite ligne de métamorphose, le projet phare de développement de la ville de Lausanne. Un projet qui entend doter la ville de nouveaux équipements sportifs, de transports publics adéquats et de 2 éco-quartiers comme aux Plaines du Loup dans la région de la Blècherette. Un sujet à retrouver sur notre site django.fm et on remercie Daniel pour ce sujet réalisé ce week-end dans le nord de la capitale vaudoise. Merci beaucoup. My soul's bones are old. I fall. Charlotte Grace qui nous chante cette chanson Birth. Elle sera d'ailleurs à la fête de la musique ce jeudi à 18h à l'Atrium de l'Ejma. C'est au quartier du Flon pour la fête de la musique, bien sûr. Et on en parle dans 10 minutes à peine avec l'un de ses organisateurs de cette édition 2018.
Radio Django, la rose des vents.
18h34, c'est l'heure de la Rose des Vents. Et c'est avec Anouche, rédactrice à la Voix d'Exil, qui nous a rejoint ce soir pour parler de vacances d'été, de requérants d'asile et d'astuces pour les organisations. Bonsoir Anouche.
Bonsoir Fabien. Youpi, c'est bientôt les vacances. Les vacances réjouissent toujours les grands et les petits. Chacun de nous a des souvenirs inoubliables de ces vacances. Les voyages à l'étranger ou en Suisse, les balades et les sorties, tout est possible quand les gens ont les documents de voyage, les moyens et les possibilités de se les offrir. Mais que font donc les requérants d'asile et leurs familles pour affronter la période des vacances d'été? Ouais,
je sais effectivement que les requérants d'asile ont un budget très serré et des moyens passablement limités.
Plus précisément, Fabien, le budget s'élève à 12,50 francs par jour pour les bénéficiaires de permis N et F et à 8,50 francs par jour pour les personnes à l'aide d'urgence, c'est-à-dire les déboutés de l'asile. Ceux qui habitent dans les foyers et qui sont à l'aide d'urgence, ils reçoivent que des bons pour la nourriture et jamais l'argent liquide.
Mais est-ce que le budget est le seul obstacle que rencontrent les requérants d'asile dans leur projet de vacances, Anouche?
Non, c'est malheureusement un obstacle parmi d'autres. Les bénéficiaires de permis NF n'ont pas le droit de quitter le territoire de la Confédération et les personnes à l'aide d'urgence n'ont pas le droit de franchir les frontières du canton où elles habitent. En plus, ces requérants déboutés sont souvent assignés à résidence. Cela signifie qu'ils doivent être à la maison de 22h jusqu'à 7h du matin. De belles soirées d'été en perspective pour eux. Relevons que certains requérants d'asile vivent de pareilles situations durant l'année.
Et pour mieux comprendre la situation, Anouche, tu as interviewé des personnes en procédure d'asile sur leur projet d'été.
Exactement, Fabien. Je vous propose d'écouter quelques témoignages.
Qu'on va écouter, des témoignages que tu as rencontrés pour nous, Anouche. Les voilà.
Si je vous dis vacances d'été, quels sont les premiers mots qui vous viennent à l'esprit?
Alors, vacances d'été, premièrement, je vois la mer, et les enfants, et toute la plage, quelque chose comme ça. Mais pour les requérants d'asile que nous sommes, c'est un peu difficile pour le moment.
D'accord. Qu'est-ce qui est difficile pour un requérant d'asile? Enfin, comment est-ce qu'il appréhende les vacances d'été? Comment il aborde le sujet avec les enfants? Enfin, comment ça se passe à la maison, concrètement?
Alors, lorsqu'il y a des vacances qui arrivent, on n'appréhende même pas parce qu'on ne sait pas par rapport à notre revenu. On s'est dit, mais s'il y a des vacances qui arrivent l'été, il vaut mieux que les enfants profitent de leur école pour les amener, par exemple, à la plage. À la plage, mais de nous-mêmes, faire des économies ou pour la préparation des vacances d'été, c'est un peu compliqué, c'est difficile par rapport aux revenus. Et voir aussi sur la situation administrative, ça fait que ça, tout coince.
Qu'est-ce que vous entendez par « tout coince » ?
Alors, c'est déjà un peu... Parce que si on veut dire qu'on est sorti, par exemple, du pays, c'est vraiment c'est ça qu'on aimerait faire pour aller en vacances ou aller ailleurs. Mais non, ce n'est pas possible parce qu'on n'a pas de statut qui fait qu'on doit prendre, disons, un passeport ou un visa pour aller ailleurs.
Comment vous passez ces difficultés ?
En fait, c'est très difficile de vivre comme ça parce que ça fait un peu difficile même faire intégration avec des gens. Par exemple, un jour avec mes amis qui m'invitaient d'aller à Genève pour manger les poulets à KFC. Alors, on a pris le rendez-vous à Lausanne Gare. Je suis allé là-bas, ils sont venus avec la voiture, après on est parti jusqu'à à Genève. Et quand on arrive à Genève, on n'arrive pas à trouver le KFC, il était où? Alors on a fait les tours là-bas, on n'arrive pas. Et à l'autre, dans la voiture, il a dit, pourquoi pas, on peut aller en France pour faire ça. Et eux, ils ne savent pas que moi, je n'ai pas le papier. Ça veut dire que je ne peux pas passer de la frontière avec sans papier. Ça peut être très difficile. Ça va poser beaucoup de problèmes pour moi. Et moi, j'ai dit, écoute les gars, on ne peut pas aller en France parce que moi, j'ai oublié mon pocket-money à la maison, j'ai oublié mon permis à la maison. Comme ça, je peux pas aller en France maintenant. Sinon, on peut essayer même de demander des gens où on peut trouver les KFC. Ça veut dire qu'on doit rester ici à Genève. Je ne peux pas sortir pour aller en France. C'est ça me fait très mal au corps parce que je ne peux pas faire ce que je veux, quoi. C'est ça les difficultés.
Je ne sais pas comment il faut organiser parce que tout le temps, je me trouve à Lausanne. Mon budget ne me permet pas de quitter Lausanne pour visiter d'autres villes ou me rendre même dans un autre canton parce que je n'ai pas le droit. Si tu as le papier blanc, tu dois rester dans le même canton où tu habites. Donc, qu'est-ce que je peux dire ? Je passe mes vacances à Ouchy. Et j'entends toujours, madame, si jamais vous pouvez passer à Ouchy, c'est magnifique, c'est joli. Oui, c'est vrai, c'est magnifique, c'est joli. Et tous les étés, je passe mes vacances à Ouchy. Presque 6 ans à Ouchy. C'est horrible. C'est horrible et je suis sûre que nos enfants ont besoin d'aide psychologique parce que vraiment c'est difficile. Rentrer à l'école et tout le monde raconte leurs vacances. Et mes enfants, quand elles étaient, c'était 2 filles, elles étaient à l'école, tout le temps elles répondaient « Mais nous étions à Ouchy, nous étions à Ouchy. »
Si vous faites un sondage dans notre classe, vous ferez attention que tout le monde a beaucoup de rêves dans la tête et dans la vie. Il y a plein de choses. J'aimerais beaucoup aussi visiter la Tour d'Eiffel à Paris, mais malheureusement, je ne peux pas sortir de la Suisse. J'ai beaucoup de rêves. Pendant mes vacances, je suis un peu triste. Vraiment, j'ai perdu mon sujet. Qu'est-ce que je peux faire? Mais il y a Cours de France et maintenant, toujours, je réfléchis demain, qu'est-ce que je vais faire.
Quelles sont les difficultés? Qu'est-ce que vous ne permettez pas de réaliser vos rêves? Quelles sont les difficultés?
Parce que je n'ai pas beaucoup d'amis suisses et je n'ai pas de permis, je n'ai pas de travail. C'est toutes les choses qui me dérangent beaucoup, vraiment.
Je vais aller avec des amis à Port-de-Lac pour faire des pique-niques. Parce que je n'ai pas sorti en Suisse. Parce que je n'ai pas... Je n'ai pas de passeport. À cause de ça, je vais passer à Port-de-Lac avec des amis pour jouer du football avec Nagier. C'est comme ça.
Pendant ces vacances qu'on partait avec des amis, nous faisons des jeux de cartes ou écouter des musiques ou quelqu'un, des amis qui leur racontent une histoire en écoutant. Voilà, c'est intéressant comme ça, passer les vacances, je pense.
Et si vous avez la chance pour sortir de la Suisse ou visiter?
Première fois, j'ai la chance que je peux sortir à Suisse. J'ai rencontré mes familles. Et la deuxième fois, j'ai visité le Canada. Si je peux, c'est dans ma tête, c'est un rêve.
J'aimerais que quand je suis riche, j'ai visité toute la canton de Suisse.
et aussi faire des chaleurs avec mes amis sur la montagne. C'est tout, oui.
Qu'est-ce que vous feriez donc vous aimeriez passer des week-ends chalets?
Oui.
Et qu'est-ce que vous feriez là-bas? Qu'est-ce que vous allez faire?
Avec mes amis, faire des repas, un spécial repas pour manger et aussi peut-être un peu jouer avec cartes.
Mais comment vous imaginez qu'est-ce que c'est un chalet pour vous?
Un chalet, c'est pendant une semaine, nous louons un chalet. Voilà, peut-être nous partait avec train. Et après, chaque personne, elle paye 100 francs pour préparer le ça une semaine avant de cette fête.
Voilà pour ce qui est de ce témoignage. Merci beaucoup, Anouche, pour la préparation de ce sujet.
Merci aux élèves des classes de français de l'EVAM pour les témoignages. C'est ma dernière émission sur Radio Django. Je remercie toute l'équipe et personnellement toi, Fabien, de m'avoir donné cette opportunité de découvrir le monde de la radio. Et je peux dire que c'était une excellente et riche expérience.
Merci beaucoup à toi, Anouche. Merci pour ton investissement, ton œil critique et ton regard expérimenté en tant que journaliste et rédactrice à Voix d'Exil. Merci beaucoup et puis plein succès pour la suite de ton côté.
Merci.
Merci Anouche. Donc, tu es rédactrice à Voix d'Exil, le média d'information destiné à l'expression libre des personnes migrantes en Suisse et ailleurs. On vous renvoie bien sûr sur votre site pour retrouver tous vos articles, vos centaines d'articles, et puis celui de ce soir notamment sur votre site qu'on rappelle voixdexil.ch au pluriel. Et puis on vous met bien sûr le lien sur le nôtre, www.django.fm. Une belle soirée, une bonne suite Anouche.
Belle soirée.
Nous, on parle de la fête de la musique dans quelques instants et voici un peu de musique avec Breeze, Take What You Want. On en parle dans quelques instants.
You can leave and take what you want. Take my heart on your way. No, I don't think I need it. Cause I'm broken, honey. No, I don't think I need it. Cause I'm broken. Yeah, it's broken, honey.
Rent a van now. Take the bed, you'll need one with a new girlfriend. Oh, rent a van and take the bed, you'll need one with a new girlfriend. And don't forget the freezer, bring it back to your mother. I'm
Take What You Want de Breeze, une chanteuse togolo genevoise qui se produira sur la scène de Pôle Sud à 19h15. Ce sera ce jeudi, à l'occasion bien sûr de la fête de la musique édition 2018.
Radio Django, culture.
Il y a deux jours de la traditionnelle fête de la musique, le 21 juin. On en parle évidemment comme chaque année sur Radio Django ce soir avec David Agoch. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue. Vous êtes au sein de la FASES responsable des musiques du monde dans le cadre de la fête de la musique du 21 juin. Cette édition 2018 offrira plus de 60 scènes, dedans, dehors, dans les rues, sur les places, des scènes officielles, des scènes ouvertes, etc. etc. De la pop musique, de la musique folklorique, du classique, du chant choral, beaucoup dans de la musique celte ou irlandaise même, du rock, de l'électro, de la hip-hop, du jazz, des amateurs, des professionnels. Au total, 180 concerts gratuits sont prévus, 2500 musiciens vont se produire et vous attendez entre 30 et 50 000 visiteurs. Des records déjà battus même avant le coup d'envoi, malgré la Coupe du Monde, David Agoch.
Oui, à tous les coups, c'est un événement qui est... Non, là, je suis très positif, d'autant qu'on a vu la météo. Non, effectivement, on attend très clairement du monde dans les rues de Lausanne. Je crois que c'est une manifestation qui est appréciée des Lausannois en général. C'est très agréable, c'est une manifestation assez très variée, très vivante, avec... de toutes les couleurs, de tous les styles de musique, vraiment, il y en a pour tout le monde, c'est ça qui est très apprécié.
Et les Lausannois ont un petit peu l'habitude, hein, puisque c'est la 24e cette année.
Oui, effectivement, c'est une manifestation qui dure et puis qui prend de plus en plus de place, qui change énormément, parce que d'année en année, le comité propose chaque fois de nouveautés, et puis c'est ça qui est intéressant, c'est pas uniquement simplement des scènes, et puis, on s'arrête à ça, une programmation simple.
Alors justement, les scènes, on en parle, hein, le choix des lieux, on les connaît, hein, les habituels sur les places, sur les scènes et les grands points de rencontre lausannois dont on a l'habitude. Il y en a toujours plus avec des endroits très tendance, hein, par exemple la Jetée de la Compagnie au bord du lac. Et il y en a qui sont plus originaux, hein, cette année. On cite par exemple le centre de loisirs Ebenezer, le CHUV dans le hall central d'accueil. Ça, c'est vraiment très exotique.
Ça fait pourtant des années que le CHUV participe.
Ouais. Voilà, mais c'est quand même un lieu plutôt chouette, hein, d'aller vers les malades, pourquoi pas.
C'est un petit peu une vocation de la fête de la musique. On programme dans des lieux où peut-être les gens ne peuvent pas se déplacer. Par exemple, ça fait 2 ans qu'on est en collaboration avec l'espace Ergazi à Tsuri. On programme un concert pour les personnes en difficulté. Et on amène de la musique sur le site et où les familles et les bénéficiaires de cette action peuvent participer à ce concert. C'est un moment assez sympathique. Et effectivement, le but, c'est d'amener la musique vers les gens qui ne peuvent pas aller vers elle.
Ouais. Et puis, vous allez un petit peu plus loin cette fois-ci aussi avec l'abbaye de Montron. Vous sortez de Lausanne.
C'était déjà le cas depuis plusieurs années. Oui, effectivement, c'est un endroit... effectivement, c'est un petit peu, le point le plus éloigné de la fête, mais je crois que c'est un cadre idyllique.
C'est pour ça que je le cite.
Oui, mais vous avez bien raison. C'est un cadre idyllique. Vraiment, en plus, il y a un public qui va là-bas très fidèlement, qui suit. Donc, c'est pas un endroit qui est désertique. C'est pas parce que c'est éloigné que les gens n'y vont pas.
Surtout qu'il y a les lignes de bus qui vont directement.
Absolument. Ouais. Et puis, il y a une programmation qui plaît, quoi.
Et puis, une nouvelle scène en plein air à la place Arlo, qui vous est très chère, David Agoch.
Oui, parce que c'est le petit plaisir de voir revenir les musiques du monde, et notamment les musiques folkloriques au centre-ville de Lausanne, parce que on va dire que depuis 2-3 ans, on a un petit peu retravaillé la présence de tous les styles de musique en créant des pools de programmation par styles musicaux. Et puis, on s'est axé un petit peu sur les musiques dites traditionnelles, qu'elles soient, qu'elles fassent appel aux traditions, qu'elles soient suisses ou étrangères. Et le but, c'était vraiment d'essayer de faire qu'il y ait un maximum de ces musiques qui soient présentes, ce qui était peu le cas avant que je prenne cette réorganisation du pool musique traditionnelle avec mon collègue Florian Beauvais, qui s'occupe plutôt des ensembles avant. Quand on a repris ça, c'est vite vu la participation, l'inscription, ça a redynamisé, en fait, si on veut bien, la participation des ensembles et des groupes. Et puis là, on voit le fruit de notre travail, ça demande de l'énergie, mais là, quand on voit la belle programmation qu'on a cette année, je crois qu'on est content et on va continuer comme ça à mettre de l'énergie, à essayer un peu de stimuler la participation, l'envie d'être sur scène et de se montrer, de montrer aussi les richesses du folklore, quel qu'il soit.
Ouais, vous avez amené un bol d'air frais. Hein. Une édition 2018, vous venez de le dire, qui est orientée sur la musique folklorique et la présence de musique de diverses communautés. Hein. Pour en citer que quelques-unes, les Russes, les Albanais, les Chiliens, les Portugais, les Kosovars, la musique des Andes également. Et puis, il y a l'Académie Suisse de Cor des Alpes avec ses 24 instruments. Ce sera à la place de la Palue à 18h30.
Oui.
Pourquoi aller forcément très loin? On peut avoir de la musique suisse.
On peut avoir de la musique suisse, mais n'empêche qu'elle a fait de la musique, il n'y en a pas souvent. Alors, on a eu une fois, je crois, du yodel, sauf erreur, depuis que je suis au comité, ça fait depuis 2008. Il n'y en a pas très souvent, c'est ça qui est étonnant. Il y a de la musique suisse, oui, mais c'est celle que tout le monde pratique, hein, dans les harmonies, dans les fanfares, dans les groupes de musique, dans les groupes locaux qui sont ici, hein, les groupes de musique actuels. Mais c'est vrai que le folklore suisse... On ne va pas dire qu'il y a peu de participation, mais on en a peu eu à la fête de la musique. Donc du coup, ça fait plaisir d'avoir cette connexion avec ce groupe de Cornemuse, de Cordes-Alpes. Pardon.
Cordes des Alpes, c'est l'autre, il est plus long celui-là.
Oui, non, Cornemuse, il y a aussi, mais c'est pas... De Cordes Alpes, avec toutes mes excuses.
Ouais. Et puis la musique folklorique, bah, il y a la musique du monde aussi, ça c'est votre atout. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il y a comme élément majeur dans la programmation cette année ?
Alors, j'aurais envie de dire tous, parce que j'ai envie de mettre l'accent sur tous
les... Soyons pas modestes, allons-y.
Non, mais je crois que... Sur la programmation musique folklorique, donc vous parlez à Arlo, hein, pas sur la programmation world globale. Hein.
Oui, mais pourquoi pas, parlons de la musique générale. Hein.
La musique générale, je vais faire évidemment de la programmation pour Arlo, parce que c'est une place qui est déjà magnifique. Elle est petite, on s'y sent tout de suite, bien, dans une ambiance un peu conviviale. Là, il y aura des groupes de danse et de folklore de régions que vous avez déjà citées auparavant. Là, il y a un groupe notamment de musique académique portugaise qui est magnifique, qui s'appelle Tuna Helvetica, qui sont à peu près, on va dire, 15-20 sur scène, et qui jouent avec leur guitare, leur voix a cappella, vraiment avec un coffre au niveau musical, et ça flanque des frissons dans le dos. Donc ça, c'est le genre de moment que, à mon avis, il ne faut pas rater, ça vaut vraiment la peine. Il y a évidemment, j'aurais envie de parler de tous les groupes, parce que franchement, tous proposent des programmes de qualité. Au niveau de la programmation à Pôle Sud, il y a une variété aussi au niveau des styles. Il y a de la musique celtique, il y a de la musique brésilienne, il y a également, on a entendu Brise tout à l'heure, juste avant le sujet, qui fait plutôt de la folk, on va dire, mais qui est aussi teinté de musique du monde. Donc vraiment, il y a énormément de possibilités de se faire plaisir, il y a des styles différents, il y a des origines différentes, il y en a un peu pour tous les goûts. Et puis il y a des styles et des lieux, il y a des lieux qui sont teintés world music, et puis il y a aussi des fois quelques petits inputs dans certaines programmations, comme par exemple au Vallon, où vous trouverez des musiciens comme Jorge Nascimento, qui fait de la musique brésilienne. Il y a certains concerts qui sont un petit peu éparpillés dans une programmation un peu plus panachée que par style, comme c'est le cas à Pôle Sud ou à Arlo.
Vous la citiez tout à l'heure, Breeze, hein, qu'on a écouté en début de sujet. Elle est togolaise et genevoise, donc suisse. Mm-hmm. La musique suisse, est-ce que c'est un atout aussi, c'est un élément majeur dans le souhait de programmation de faire découvrir la scène émergente suisse, de faire parler des Suisses?
Oui, bien sûr, oui, c'est clair, on est centré sur les artistes suisses. D'ailleurs, on ne programme, sauf erreur, que des artistes suisses, à part éventuellement, effectivement, quelques musiciens qui viennent, qui font partie de groupes world music, qui viennent donner leur rapport à certains concerts. Ça c'est vu, mais normalement... On essaie d'accentuer vraiment la musique locale au niveau, en tout cas, helvétique.
Mais lausanno-lausannoise, suisse romande ou carrément helvétique?
Non, il y a de tout, effectivement. Alors, vous trouverez des groupes plus suisse-alémaniques, notamment dans la programmation musique actuelle sur la scène des Docks, par exemple Véronica Fusaro, qui est une artiste suisse-alémanique. On a également d'autres, mais on a majoritairement, on va dire, des musiciens locaux, lausannois, ou en tout cas de la région.
Et puis, cette année, il y a une spécialité, comme vous le mettez en avant dans vos diverses documentations, une collaboration avec la ville de Fribourg. Oui. Un échange de deux groupes, expliquez-nous.
Oui, alors ça fait cette année, c'est la première fois qu'on collabore avec la ville de Fribourg. C'est-à-dire que pour l'instant, la collaboration, elle vient de démarrer. Elle démarre par des échanges d'artistes. Ça, ce qui est assez intéressant, parce que ça fait venir aussi d'autres styles de musique. Nous, on a souhaité avoir dans des échanges plutôt des groupes qui soient du classique ou des musiques traditionnelles ou populaire. Donc là, on a la Jeune Garde de la Landwehr et puis le Big Band du Conservatoire de Fribourg qui viennent à Lausanne. Et puis la Fête de la Musique de Fribourg souhaitait plutôt un input au niveau des musiques électroniques avec notamment DJ Gemini et le groupe Marquise.
Oui, le groupe Marquise qu'on a reçu plusieurs fois ici sur Radio Django pour nous parler de leur progression et de leur composition. Dans les années à venir, quelque chose qui va se prolonger avec d'autres cantons, d'autres villes peut-être?
Alors c'est probable, on est en discussion également. Pour l'instant, c'est encore de l'avenir. Et puis je ne veux pas m'engager pour le comité, mais on a une discussion sur le futur au niveau des collaborations, que ce soit à l'échelle européenne ou avec de jumelage avec certaines villes. Ouais. Alors, je ne donne pas encore de nom parce que ce n'est pas encore officiel, mais c'est dans les prévisions.
C'est en discussion et en souhait. Un dernier projet qui est plutôt spécial pour cette année, c'est de transformer des classes de musique scolaire en orchestre.
Oui, orchestre en classe. Hein. Ça, ça fait partie de ce qu'on appelle maintenant, ce qu'on propose chaque année, c'est des projets spéciaux, c'est-à-dire des projets qui sont uniquement proposés une année, puis après on change, on fait des choses différentes, histoire de varier aussi un peu ce contenu de fait de la musique. Et là, c'est un projet qui est mené par l'école de musique de Lausanne. Et l'école de musique de Lausanne propose donc en fait, un projet qui existe déjà, mais par contre qui a été travaillé spécifiquement pour la fête de la musique. Les orchestres en classe, je suis pas celui qui en parlera le mieux parce que l'école de musique est mieux placée que moi. Les orchestres en classe, c'est en fait la création d'un orchestre symphonique dans les classes, c'est-à-dire on propose aux élèves de jouer un instrument avant ou un instrument à cordes, et puis on crée un orchestre symphonique avec les élèves des classes. Là, je crois que c'est des 6 à 8 P de Renan et Lausanne sur différents établissements. Puis l'idée, c'est de travailler ensemble, d'apprendre ensemble l'instrument de musique et de travailler la musique ensemble et de créer une prestation le 21 juin. Et là, c'est une prestation assez originale puisque c'est un rap symphonique, ce qui est assez fou. On serait juste de voir ce que ça donne. Ce sera à 17h à Paderewski, si je ne fais erreur au niveau du lieu. Donc c'est vraiment quelque chose qui est intéressant à aller voir. Et puis ça fait partie de ces projets un peu fous qui sont imaginés, proposés par le comité. Et évidemment, les acteurs que sont les artistes qui contribuent à ce projet.
Et puis l'année prochaine, si on souhaite participer à un de ces projets spéciaux.
Alors par exemple, on en a un de ces projets spéciaux. Il y a la possibilité, l'année prochaine déjà, on est déjà au taquet.
On parle à 2020 alors.
Ouais, non. Non mais disons qu'on s'est rendu compte que si on veut faire financer nos projets, évidemment, il faut faire des demandes de fonds suffisamment en avance. Là, on est parti sur un projet avec l'école de musique de Lausanne et puis un ensemble de musiciens pro qui s'appelle Babel, qui s'appelle African Marketplace, qui est en fait tiré d'un thème jazz, en fait, inspiré d'un thème jazz sud-africain d'Abdoulaye Ibrahim Brendolar, qui s'appelle justement African Marketplace. Et ce projet, en fait, va se passer entre l'école de musique de Lausanne, les maisons de quartier et centres socioculturels, et le but est en fait de faire des ateliers, d'apprendre aux enfants et aux adultes, enfin aux gens des quartiers, à travailler avec des codes d'improvisation musicale sur ce thème. Et après, le but, c'est que le 21 juin, il y ait un événement rassembleur où on part en cortège dans la ville de Lausanne. On va faire du bruit, encore plus qu'il n'y en a. Non, je plaisante.
Tout le 21
on va faire du bruit. Et puis, terminer sur une place centrale de la ville et partager un moment festif avec les Lausannois. Donc ça, c'est un projet pour 2019. On est en train de le mettre en place.
Mais on peut, si on est intéressé, on peut s'y intéresser, si, disons, se mettre en avant, en contactant qui, par exemple ? Les maisons de quartier ?
Tout simplement. Ah, vous pourrez African Marketplace. Oui, là, oui. Pour l'instant, on a contacté les maisons de quartier. Et puis, si les gens souhaitent participer, bien sûr, il y a les maisons de quartier qui sont moteurs. Oui. Pour l'instant, quelques maisons de quartier nous ont répondu. Je ne peux pas encore vous donner des noms parce qu'on doit être, on doit finir le projet véritablement. Mais
une restons fois, déjà peut-être sur l'édition de cette année.
Tout à fait.
Avant de parler de l'année prochaine. Merci beaucoup, David Agoch.
Je vous en prie.
La fête de la musique, 24e du nom, ici à Lausanne. C'est évidemment, comme partout ailleurs, ce jeudi, le 21 juin. Sur toutes les scènes et les places de la ville de Lausanne, il y en aura pour tous les goûts, comme chaque année. Le programme est en ligne sur Internet de l'organisation fêtemusiquelausanne.ch. C'est le site que vous gérez, notamment avec toute votre équipe du comité. On vous met le lien, bien sûr, sur notre site, un sujet à réécouter et à retrouver en détail, www.django.fm, ça c'est notre site, avec le lien fêtemusiquelausanne.ch. Merci beaucoup, David Agoch.
Merci à vous.
Une très belle édition. Et merci d'avoir fait également le détour par Radio Django ce mardi soir, deux jours avant la fête.
C'était un plaisir.
Un grand plaisir partagé. Un sujet préparé ce soir avec la complicité d'Anna Maria. Le Grand Direct s'est terminé pour ce mardi. On a parlé d'exposition, de portraits photos et de textes avec empreinte, d'impulsion, une mesure de la fondation Le Relais. Nous avons parlé également de la fête de quartier de Bosson, de la question douloureuse des vacances d'été pour les requérants d'asile, un sujet de voie d'exil, et puis la 24e fête de la musique à Lausanne. C'était le programme de ce mardi 19 juin sur Radio Django et Radio La Fabrique. Tous ces sujets sont à retrouver à partir de tout à l'heure sur notre site www.django.fm. Merci à Jonas et à Claudia la technique ce soir. La semaine prochaine, nous parlerons de harcèlement de rue et puis du festival In Cité. Le programme à suivre et à découvrir au fur et à mesure sur notre page Facebook Recherche Radio Django et sur notre site django.fm. On vous met bien sûr tous les liens à disposition comme tous les mardis après chaque émission. Et puis dans quelques instants, ne partez pas si vite. Quatrième volet d'À propos, votre rendez-vous de billets traitant de mouvements naissants ici à Lausanne. Ce sera dans quelques instants. Mais pour l'heure, je vous donne rendez-vous mardi prochain à partir de 18h pour une nouvelle heure de vie et d'aventure lausannoise dans votre grand direct. Très belle soirée, allez-vous. Allez, très belle soirée à vous, on dit en français. Si je ne mélange pas mes mots, ce sera beaucoup mieux. Belle soirée à vous, il est 19h à mardi.
Radio Django à écouter sur radio.django.fr.